L'un des cours que Manitou donnera dans le cadre de son séminaire de fin d'année portera samedi sur le passage des explorateurs qui est la sidra de la semaine. Et je choisirai le premier verset pour introduire la conférence de ce soir. Shlach lecha anashim veyaturu et Eretz Kenaam, envoie pour toi des hommes afin qu'ils explorent le pays de Canaan. Et vous savez, et la tradition insiste sur le fait, Kulam, Rachel ben Israël, Hema, tous les explorateurs qui avaient été choisis étaient effectivement les dirigeants de la communauté d'Israël. Par conséquent, on peut se poser le problème, et c'est le problème tout à fait central de toute cette sidra, de savoir ce qui s'est passé entre le moment où ils ont été choisis et ils ont été envoyés en Israël, et le moment où ils sont revenus faire leur rapport absolument désastreux quant à ses conséquences. C'est qu'au fond, Veyaturu et Eretz Canaan, pour qu'ils explorent le pays de Canaan, peut avoir deux sens. Soit le sens que nous trouvons dans l'Exode, où il est dit que Dieu lui-même était chargé la tour, la Rem Menucha, pour essayer de trouver la paix et la quiétude pour les enfants d'Israël, ou bien simplement pour essayer de se rendre compte si au fond Israël était un pays comme les autres, quels étaient ses avantages et ses inconvénients. Je crois qu'en ce qui nous concerne, et nous avons la chance d'avoir Manitou ici ce soir, qui était encore ce matin à Jérusalem, c'est qu'effectivement, c'est la première définition en ce qui le concerne à propos des explorateurs qui sont allés avant la communauté, la tour Lahem Menucha, pour essayer de trouver le repos et la quiétude dans le pays d'Israël, et c'est effectivement Rachel ben Israël Hema qui revient en tant que chef de la communauté d'Israël pour venir ici à nouveau à la fin de cette année d'études fructueuses du QEJ vous donner un séminaire d'enseignement. Je passe la parole à Manitou.
Bien, mesdames, messieurs, nous allons donc être occupés toutes ces soirées, en tout cas de la première semaine du séminaire, à réfléchir sur l'enseignement des Pirkei Avot et dans la perspective de la notion d'héritage des pères. En effet, en hébreu, le titre de cet ensemble de Mishnayot, de ce livre du Talmud que nous nommons le Pirkei Avot, consiste à définir la notion de l'enseignement moral, si j'ose dire, par l'indice de la paternité, c'est l'être père qui a la capacité, la prérogative d'enseigner la morale, alors que c'est le maître qui enseigne la Torah, qui enseigne la loi. Nous aurons donc à réfléchir sur cette relation qu'il y a entre cette manière d'être que l'hébreu nomme « av » et que je vous traduis donc directement par « être père » et effectivement en opposition avec le concept de l'être fils, celui qui reçoit l'enseignement de la moralité, et d'étudier les voies du passage de l'héritage entre les pères et les fils. Vous le devinez, c'est un sujet qui préoccupe la génération présente dans différentes dimensions de ce que l'on appelle aujourd'hui dans la civilisation occidentale la contestation, mais je le traiterai surtout du point de vue de l'histoire de la société juive contemporaine et cette première notion donc restera en filigrane. Pourquoi l'enseignement talmudique a tenu à attribuer l'enseignement de la morale, et de, non seulement de la morale théorique, mais surtout de la morale pratique, de la formation morale ou de la pédagogie morale, à relier cela à la notion du père, alors que nous sommes habitués à ce que l'enseignement de la tradition passe plutôt par la personnalité du maître. Et tout de suite, nous aborderons une sorte de découverte d'une bipolarité d'identité dans la société hébraïque, entre Abraham d'un côté, qui est le prototype du père, d'ailleurs nous le verrons plus en détail, cela est inscrit dans son nom, il se nomme Abraham, le père, et d'autre part Moïse, qui est le maître. Je voudrais immédiatement rattacher ce thème, héritage par Abraham, fidélité par Moïse, à l'actualité contemporaine de l'identité juive. Il n'y a pas de doute que nous assistons à tout un travail, un immense travail de mutation dans l'identité juive. Et il est inévitable que ce travail de mutation que nous allons décrire immédiatement porte avec lui un certain nombre de problèmes, un certain nombre de crises. Il est important de voir comment ces problèmes et ces crises qui sont de différentes natures, tant historiques qu'idéologiques que politiques, ont été déjà indiqués précisément dans un certain nombre de thèmes de l'enseignement des Pirkei Avot, et nous serons plusieurs cette semaine à nous partager ces thèmes, de telle sorte d'essayer de viser, à travers la langue française qui nous sert de langue véhiculaire de culture, ces thèmes de l'enseignement de la tradition hébraïque, concernant donc un problème qui pour nous, en gros plan, est très précis. Tout ce travail d'enfantement, de mutation de l'identité juive contemporaine et qui s'inscrit à l'intérieur de problèmes très généraux qui sont les crises de la croissance de l'humanité de notre temps. Je voudrais d'abord très brièvement, sur ce gros plan de cette notion de mutation de l'identité juive, énumérer un certain nombre de points. D'abord, d'un point de vue strictement historique, en quoi cette mutation consiste ? Eh bien, elle ressemble beaucoup à ce qui s'est passé il y a plus de 3000 ans, au temps de la sortie d'Égypte. C'est un ensemble de communautés juives procédant de paysages culturels différents, procédant d'équations de définitions personnelles différentes, qui se trouvent en marche vers une identité réunificatrice qui se dessine déjà, mais qui est porteuse de problèmes. Au temps de la sortie d'Égypte, et nous raconte la Bible, le peuple juif, le peuple hébreu de l'époque, était formé surtout de tribus, de familles, qui par conséquent prenaient conscience de leur identité Israël, surtout à l'échelle individuelle. Et tout le travail de mutation qui s'est produit en ce temps-là a consisté à tenter de faire exister une nation à partir d'un ensemble de définitions individuelles ou de fidélité personnelle. A essayé par conséquent de donner une extension collective à l'héritage des patriarches à travers toute une série de fidélités personnelles qui pouvaient être en soi contradictoires et encore une fois génératrices de conflits ou de problèmes. Et bien de notre temps, par un autre biais, nous assistons à une marche de mutation très analogue. En effet, de pratiquement toutes les communautés de la diaspora, de la galoute comme nous disons, de la dispersion juive, chacune à sa manière, se dessine un mouvement d'unification d'identité autour du fait Israël. Et il est inévitable, donc, comme au temps de la sortie d'Égypte, que cette mutation contemporaine soit aussi génératrice de conflits et de problèmes. Or, si nous gardons en mémoire, à travers ces deux notions de héritage qui nous vient des patriarches en général, mais surtout d'Abraham, et de fidélité, par rapport à Moïse, thème que nous aurons à retrouver aussi dans les études des lectures bibliques des semaines dans lesquelles nous nous trouvons maintenant, tant le problème de la révolte des explorateurs que le problème de la contestation de Moïse par Korach, qui est la sidra suivante, la sidra de la semaine prochaine. Il y a là, comme d'habitude, une coïncidence non calculée, mais enfin elle sera, j'espère, féconde. Eh bien, nous trouvons confrontés dans la société de l'Israël contemporain à des thèmes que la Bible a déjà racontés et que le Talmud, en particulier les Pirkei Avot, reprennent du point de vue de l'enseignement traditionnel. D'abord, d'Abraham nous vient, de notre héritage d'Abraham nous vient probablement le principal problème d'identité qui pose la question du destin d'Israël et qui est le conflit judéo-arabe. Le conflit judéo-arabe par la filiation d'Israël à travers Isaac en Abraham et d'autre part par la filiation d'Ishmaël en Abraham lui aussi. Je veux dire par la filiation du monde arabe à travers Ishmaël en Abraham lui aussi. Et donc cette première polarité du point de vue du thème, si vous voulez, de l'héritage à partir d'Abraham, eh bien, comme l'a raconté la Bible et comme nous le vivons aujourd'hui, redevient non seulement un problème contemporain, mais un problème de mutation d'identité qui nous concerne centralement. D'autre part, dans notre relation de fidélité à Moïse en tant qu'il a été le maître d'Israël, il y a dans la société d'Israël aujourd'hui, et il est inutile de rappeler l'actualité immédiate dans les détails, tout le monde a cela en mémoire, le problème du conflit ou de l'opposition entre une identité juive qui se définirait d'un point de vue dit religieux et une identité juive qui se définirait d'un point de vue dit non religieux. Tout cela étant bien entendu à retraduire en hébreu. Voilà donc, si vous voulez, le premier thème. Il y a deux conflits qui menacent l'avenir de cette gestation d'identité, de cette mutation que je vous décrivais tout à l'heure, et qui concernent très centralement un par la périphérie et l'autre au centre, si j'ose dire, l'identité d'Israël en mutation, c'est d'une part le conflit judéo-arabe et d'autre part le conflit, donc un conflit qui était intérieur à l'identité d'Abraham et d'autre part le conflit entre judaïsme religieux et judaïsme laïque, pour employer des termes de civilisation occidentale et qui lui concerne toute l'histoire que la Torah nous raconte à propos des rapports entre Moïse et la société d'Israël de son temps. Voilà donc, si vous voulez, le premier point qu'il y avait à rappeler. Mais à travers ces deux conflits, ces deux sortes de conflits, et nous retrouvons aussi le conflit des pères et des fils. En ce sens qu'à l'échelle de la personne humaine individuelle dans notre société, certains, et ce sont ceux-là les pères, certains se définissent par communion absolue avec Israël comme identité collective et dans une fidélité collective à l'héritage de tous, et d'autres se définissent à l'échelle individuelle. Je veux dire que pour ce deuxième point, le conflit entre les pères et les fils ne fait que traduire au niveau de l'existence individuelle, de l'existence personnelle, le travail de gestation d'une harmonie qui se cherche entre une identité collective et une identité perçue à l'échelle individuelle. Derrière tous ces thèmes, l'enseignement traditionnel, tel que nous le trouvons déjà dans la Mishnah, tel qu'il est formulé de façon plus précise encore dans les textes des kabbalistes, apparaît le thème d'un conflit métaphysique, si j'ose dire, entre les forces de la patience et les forces de l'impatience. Il y a toute une dialectique entre la patience et l'impatience, il y a toute une dialectique entre l'être père et l'être fils, elle est d'ailleurs très parallèle, il y a une dialectique entre l'identité collective et les droits de l'existence individuelle, et il y a surtout une dialectique entre la perspective de l'héritage et la perspective de la fidélité. Voilà donc les différentes notions que je voulais rappeler, et je voudrais illustrer cela par un certain nombre d'analyses prises de nos textes, ce qui permettra de nous faire une idée générale de ce problème, et ensuite, qui sera précisé, comme d'habitude, par vos questions. Bien, d'abord, la notion qui récapitule l'ensemble de ces thèmes se trouve être une notion très paradoxale du vocabulaire biblique lorsqu'il désigne l'identité d'Israël. En hébreu, c'est « Zerar Kodesh ». « Zerar » signifie « une postérité », « une descendance ». Par conséquent, il y a là l'allusion à une identité qui se reçoit par héritage, sans que ne s'introduise aucune option idéologique, sans que ne s'introduise aucun critère de mérite par la fidélité à un certain nombre de valeurs qui dépasseraient l'hérédité pure et simple. Mais cette expression, qui commence par le terme de Zera, postérité, et par là nous sommes reliés au pôle Abraham, les patriarches, les pères, se trouve tout de suite être modifié par l'adjectif Kodesh. Et Kodesh signifie saint ou sacré. Et il y a là une contradiction interne dans cette expression. Par un certain côté, Israël se définit comme l'ensemble des descendants des patriarches par héritage, et par un autre côté, il se définit comme l'ensemble des disciples de Moïse par fidélité à un certain nombre de valeurs. Et nous trouvons là posé dès l'énoncé de cette expression l'ensemble des problèmes existentiels qui se posent à la société d'Israël contemporaine. Que ce soit d'ailleurs dans la diaspora, mais de façon diluée, de façon non dangereuse, de façon, si vous voulez, un peu artificielle malgré tout, théorique ou académique, que ce soit surtout dans cette immense gestation d'identité, de mutation très analogue à celle du temps de la sortie d'Égypte, qui se passe aujourd'hui en Israël même. Et avec, comme arrière-fond, une contestation tant au niveau du Zerar, de la postérité, cette contestation nous vient du côté d'Ishmaël, c'est-à-dire du monde arabe, et vous savez, les nouvelles d'aujourd'hui le montrent d'autant plus, à quel point les choses ne sont pas du tout et ou loin de là résolues. Et de notre côté, une contestation sur l'adjectif de Kadosh, qui nous vient de l'intérieur même, des gens de notre héritage. Voilà donc, si vous voulez, le premier principe qui apparaît. Entre héritage et fidélité, il y a déjà du point de vue notionnel non seulement une dialectique, mais enfin un risque d'opposition. L'héritage n'implique pas d'option idéologique, l'héritage se reçoit, ou en d'autres termes, pour banaliser le vocabulaire, si vous voulez, à ce niveau-là, est juif quiconque suppose qu'il l'est. Et on a l'habitude, effectivement, de relier cette définition de la polarité nationale par la descendance des patriarches, ou à la descendance des patriarches. Mais d'autre part, la définition d'une communauté qui, elle, définit son identité à travers la polarité Moïse, par la fidélité à un certain nombre de valeurs. Et il peut arriver que les intérêts de l'héritage ne coïncident pas avec ceux de la fidélité. Alors nous essayons, c'est ainsi en tout cas que le problème se pose à la lecture des journaux, si vous voulez, ou à la lecture des événements au niveau de la rencontre superficielle parfois des problèmes, mais nous essayons de réfléchir à la manière dont nos textes, et c'est en particulier le Pirkei Avot qui pose ce problème, nous montrent les indications de solutions. Il est extrêmement frappant de voir effectivement que ce livre que nous avons cité tout à l'heure, le Pirkei Avot, l'enseignement de la morale par les maîtres du Talmud, porte ce titre de l'enseignement des pères. Nous sommes habitués à savoir ou à penser que la sagesse vient des maîtres, par conséquent de Moïse. Mais voilà qu'on nous dit, au nom de cette sagesse même, que ce qui fait l'identité morale et spirituelle d'Israël vient d'abord des pères. Que le livre du Moussar, que le livre de la morale, s'appelle l'enseignement des pères. Et à l'enseignement de la Gemara Brachot en particulier, est très clair, nous avons l'habitude de nommer un certain nombre de nos maîtres pères en Israël, mais on doit réserver par privilège ce titre de père dont nous recevons l'identité par héritage, on doit réserver ce titre de père aux trois qui ont été les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Je parlerai surtout aujourd'hui d'Abraham, puisqu'il en est le principe, et qui, comme je le disais tout à l'heure, est le père par excellence, cela est inscrit dans son nom. Le paradoxe s'approfondit lorsqu'on s'aperçoit que le premier texte des Pirkei Avot commence par habiliter Moïse en tant que maître. Lorsque nous verrons les textes plus en détail dans les jours qui viennent, on s'apercevra effectivement que la première Mishnah de Pirkei Avot commence par rappeler la chaîne de la tradition et de la transmission de la sagesse à partir de Moïse. Il y a donc apparemment une sorte de paradoxe entre la définition du livre par lequel nous recevons l'enseignement de la morale propre à l'identité d'Israël, le traité des pères, les pères étant d'abord les patriarches, et d'autre part, la première Mishnah elle-même, l'introduction de ce livre qui rappelle que l'authenticité de cet enseignement passe par la transmission à partir de Moïse. Nous retrouvons là cette même bipolarité. Israël se définissant par Abraham, Israël se définissant par Moïse. En fait, l'Israël de la pérennité, l'Israël de la suite des générations et de la suite des siècles est un Israël qui arrive à identifier l'héritage qu'il reçoit d'Abraham et la fidélité qu'il doit à Moïse. Mais il n'en reste pas moins que tous nos problèmes, tous nos conflits viennent de l'opposition de ces deux polarités de notre définition et qui était inscrite déjà dans l'expression biblique que je vous ai citée tout à l'heure, qu'Israël est Zerar Kodesh, une hérédité sainte. Or, hérédité et saint, ça ne va pas ensemble. Hérédité est exclusive de toute définition spirituelle ou idéologique, la sainteté, c'est la fidélité à des valeurs. Vous voyez donc le paradoxe de l'identité juive. On peut retrouver d'ailleurs en arrière-plan ce problème sociologique très insoluble, si j'ose dire, Israël est-il une nation ou Israël est-il une religion? Le contenu, si vous voulez, de ces analyses n'est pas du tout un contenu, contingent, qui s'accroche forcément aux événements contemporains. Ce sont des réflexions et des thèmes de réflexion et de recherche qui sont propres à nos maîtres à travers tous les siècles. Parce qu'il y a effectivement dans l'identité d'Israël un cas particulier de conciliation de ce qui peut être, pour les autres sociétés, sans exception, a toujours été des contraires. Zera, Kodesh, chez nous, si vous voulez, en fin de compte, Abraham est donc un peuple qui est là par héritage, sans qu'il y ait à authentifier à l'échelle individuelle par la relation à un certain nombre de valeurs, mais d'autre part, Kodesh, Moïse, la révélation d'une loi, la révélation d'une charte d'identité qui seule peut authentifier et justifier l'identité dont on se réclame. Eh bien, et nous nous appuierons d'abord sur une analyse du Maharal, dont on parlera souvent cette semaine. Le Maharal a réfléchi à ce problème. Comment se fait-il que, pour authentifier l'identité père, on se rattache à la filiation à Moïse? Comment se fait-il pour désigner celui qui est le père de chaque génération et qui a le droit de donner les critères et les règles de la conduite, il faut une fidélité à une tradition qui se transmet à partir d'un maître? Bien sûr, ce maître, Moïse, était lui aussi un des pères, puisqu'à la sixième génération, il est, si vous voulez, si j'ose dire, le sixième patriarche à partir d'Abraham. Il suffit de reprendre la généalogie des patriarches pour s'apercevoir que Moïse s'inscrit dans cette ligne des engendrements privilégiés, des initiés de cette identité père. Mais ce n'est pas comme tel qu'il nous est désigné comme le prophète d'Israël, il est désigné comme celui qui, ayant reçu la Torah, la transmet. Non pas celui qui est le véhicule d'une hérédité matérielle, mais celui qui est le véhicule d'une tradition. Eh bien, le Maharal nous propose une définition de l'être père. Encore une fois, de cette manière d'être homme en Israël, de qui et de qui seul on doit réclamer les directives quant à la conduite pour réussir cette transmission d'identité qui fait Israël. Eh bien, le Maharal nous dit qu'il y a un parallèle entre quatre termes hébraïques qui posent notre problème. Héritage, cela peut se dire en hébreu soit Nachala, soit Yerusha. Lorsque héritage se dit Nachala, c'est l'héritage tel qu'il se transmet. Le père transmet à son fils une Nachala, d'où l'expression de Nachalat Avot, par exemple. L'héritage que l'on reçoit des pères parce que les pères l'ont transmis. Mais il y a d'autre part Yerusha. Yerusha, c'est l'héritage tel qu'on le reçoit. Du point de vue de celui qui le reçoit, cela s'appelle Yerusha. Du point de vue de celui qui transmet, cela s'appelle Nachala. Au-delà, si vous voulez, des catégories proprement hébraïques, qui ne sont peut-être pas familières à tous, mais c'est la notion qui importe, il y a deux manières de désigner l'héritage. L'héritage tel qu'il se transmet et l'héritage tel qu'il se reçoit. Et si, pour transmettre l'héritage, il n'y a pas de critères, le père transmet à tous les fils, pour recevoir l'héritage, il y a quand même un critère. Ce n'est pas n'importe quel nachala qui devient Yerusha. Un héritage peut se perdre. L'héritage n'est conservé que si un certain nombre de critères jouent. Et de la même manière que l'on doit authentifier l'être père, il faut aussi authentifier l'être fils. Les deux autres termes désignent la catégorie, se relient à la catégorie de la fidélité à cette tradition révélée qui nous vient à travers Moïse. C'est Masora et Kabbalah. De la même manière, Masora, c'est la tradition en tant qu'elle se transmet, la fidélité aux valeurs en tant que les valeurs sont transmises. Dimsor, transmettre. Kabbalah, c'est la tradition en tant qu'elle se reçoit, les Kabbalah. Et il y a là un parallèle très important qui mène le Maharal à expliquer que est appelé à chaque génération le père, celui, encore une fois, qui a la prérogative d'être le guide, c'est-à-dire celui qui donnera les critères de choix à travers toutes les bifurcations d'identité possibles pour aller vers l'avenir, celui qu'il faut suivre en tant que guide, eh bien c'est celui qui est capable de récapituler l'identité antérieure. À chaque génération de passage, apparaissent des hommes en Israël qui sont nommés les pères, par référence aux premiers qui ont été les patriarches. Pourquoi parmi tous les maîtres, seuls ceux-là sont nommés les pères? C'est parce que non seulement ils ont reçu, mais ils sont capables de récapituler en vue de transmettre. C'est dans la perspective de la plus grande récapitulation d'identité, de l'identité d'Israël à l'échelle collective pour le plus grand nombre à l'échelle individuelle, que se cherchent ceux qui sont les pères. D'où cette formule du Maharal, qui est très importante, est père, celui qui est capable de récapituler l'identité antérieure. Eh bien, corollairement, est fils, celui qui reste fidèle au projet des pères. Je m'explique. La fidélité essentielle n'est pas la fidélité à un héritage tel qu'il se trouve être reconduit à une certaine étape de l'évolution, disons du temps ou de l'histoire d'une société. La vraie fidélité n'est pas seulement la fidélité à l'acquis, c'est la fidélité au projet de ceux qui ont commencé cette histoire. La fidélité à l'acquis peut être une infidélité lorsqu'elle va, si vous voulez, en porte-à-faux avec la direction que doit prendre le projet de ceux qui ont commencé. En d'autres termes, il ne faut pas trop manier le vocabulaire paradoxal dans des sujets de ce genre, mais les véritables pères sont les fils dans la mesure où ils sont fidèles au projet des pères, et les véritables fils sont les pères dans la mesure où ils ne sont plus fidèles eux-mêmes au projet de leur propre père. Enfin, nous reviendrons sur ces catégories plus tard. Plus tard dans l'analyse. Apparaît là un problème extrêmement important, parce que lorsque se produit dans une société telle que la nôtre des événements de mutation que je vous signalais tout à l'heure et que nous sommes en train de vivre, je vous disais, sans avoir complètement fini ma phrase tout à l'heure, je vous disais que ces thèmes de réflexion étaient des thèmes permanents. Cependant, malgré tout, si j'ai choisi dans la forme de dire ainsi ces choses, eh bien, c'est parce que nous sommes très, très préoccupés, comme vous le savez, par ces problèmes d'identité à l'échelle individuelle aujourd'hui dans l'histoire juive. Suffit-il de se réclamer de l'héritage pour être dans l'authenticité, ou faut-il aussi faire la preuve d'une certaine fidélité à certains critères pour être dans l'authenticité? Nous sommes dans une génération qui a besoin de pères. C'est une génération de pères, c'est-à-dire d'hommes parmi les maîtres, qui indiquent les voies, les directions de l'avenir, à travers tout un carrefour de bifurcations possibles. Et nous reviendrons plus en détail d'ailleurs sur ces analyses tout à l'heure. Et je vous disais, c'est d'autant plus important, c'est que la dernière phrase de la prophétie fait allusion à ce problème. Ve'eshiv levavot albanim, ve'levbanim alavota. Vous savez qu'il s'agit dans ce verset, qui est la dernière prophétie de Malachi, et de l'allusion à la venue du prophète Élie, annonciateur des temps messianiques. Et la fonction du prophète Élie comme annonciateur du Messie n'est pas de dire quelle est la loi est déjà connue, mais c'est de réconcilier, dit le verset, le cœur des pères vers celui des enfants et le cœur des enfants vers celui de leur père. J'aurai à revenir sur ce verset tout à l'heure parce qu'il a une caractéristique extrêmement frappante qui s'entend immédiatement en hébreu, mais que je voudrais vous interpréter en français. Le parallélisme n'est pas exact. Le verset dit, et que Élie le prophète aura pour tâche, les Heshiv, levavot al-banim, il ramènera le cœur des pères vers les enfants, banim, il n'y a pas écrit benehem, leurs enfants des pères. Mais la fin du verset dit, velev banim al-avotam, et le cœur des enfants vers leur père. Je crois que le thème qui apparaît là, et que nous retrouvons dans la conclusion tout à l'heure aussi, c'est que lorsque ce mouvement de réconciliation vient à partir des pères, il va vers les enfants en général, vers l'être fils en général. Mais le mouvement inverse, celui qui va des fils, doit s'identifier par rapport à leur propre père. C'est ce que dit le verset en hébreu. Ve'eshiv levavot albanim en général, ve'levbanim alavotam. Mais nous aurons aussi à reprendre cela tout à l'heure. Et bien c'est là qu'apparaît une notion extrêmement importante de la tradition juive et qui nous permet de comprendre la solution qu'il y a à apporter à cette opposition qui risque d'arriver si souvent entre la participation par héritage et la participation par fidélité. Je crois qu'il est déjà maintenant assez clair que ces deux polarités doivent être complémentaires, mais que dans la réalité, elles risquent d'être occasion de conflit. Parce qu'encore une fois, héritage est exclusif de critères. Ou, si vous voulez, les critères sont subjectifs, les critères sont de l'ordre du droit de l'individu à dire ce qu'il pense être la vérité de sa propre identité, c'est l'héritage pur et simple, alors que la fidélité implique la relation à des valeurs transcendantes et qui sont transmises par tradition et non pas découvertes par intuition. La catégorie à laquelle nous arrivons, c'est la catégorie du chidouche. En effet, lorsqu'il y a convergence, lorsqu'il y a coïncidence possible entre l'héritage et la fidélité, alors apparaît ce que l'on nomme en hébreu le renouvellement. le chidouche. Le renouvellement authentique est celui qui est capable non seulement de garder intact toute l'extension de l'héritage, mais aussi de faire passer cet héritage dans le sens de la fidélité. Fidélité s'entend, comme nous l'avons vu tout à l'heure, fidélité au projet essentiel de l'origine. Ce qu'il faut arriver à reconduire n'est pas seulement une perpétuation pure et simple et statique, il faut arriver à reconduire la réussite du projet de l'origine. C'est là qu'apparaît donc le chidouche. Il est frappant de voir que chaque fois qu'un problème grave se pose du point de vue de la transmission de l'identité dans la société d'Israël, alors apparaît l'homme capable du chidouche, l'homme capable du renouvellement. Mais pas tous les chidouchim, pas tous les renouvellements sont authentiques. Seul celui du Av, seul celui du Père peut être suivi. Le Père étant, d'après la définition maharalienne, celui qui est capable d'indiquer dans le carrefour des options possibles par où passe la route de solution entre cette opposition possible de l'héritage et de la fidélité. Titre que l'on a donné aux patriarches parce qu'ils étaient capables de récapituler l'identité antérieure, titre qui est donné par la Maseret Avot aux maîtres de la Mishnah, les Anshei Knesset HaGedola, les héritiers des Anshei Knesset HaGedola, qui ont fondé l'identité de la société juive à laquelle nous sommes encore redevables et fondée il y a 2000 ans, comme vous le savez. Et en effet, il est frappant de voir que la Gemara rattache le chidouche authentique à les Moshe Missinaï. Chaque chidouche, c'est-à-dire chaque renouvellement, tant au niveau de l'être qu'au niveau de la connaissance ou de la sagesse, chaque renouvellement est frappé du sceau de l'authenticité, si j'ose dire, lorsque cela peut être rattaché à l'enseignement de Moïse. Tout se passe donc comme si les patriarches nous délivrent une identité à reconduire jusqu'à la fin des temps pour la réussir, mais que les règles de cette réussite et que les règles de cette histoire nous viennent de l'enseignement de Moïse. C'est dans la convergence de ces deux identités qu'apparaît le chidouche. Ceci est raconté dans la Bible de façon un peu cachée au moment de la rencontre entre Joseph et ses frères. Lorsque les frères de Joseph en Égypte rencontrent Joseph, et ils sont en quelque sorte l'objet d'un interrogatoire. Et Joseph leur pose la question suivante. « Hayesh lachem av o ach ?»« Avez-vous un père ou un frère ?» Et indépendamment de la question personnelle qui le préoccupait, puisqu'il savait qu'ils étaient les enfants de Jacob, je parle de Joseph, indépendamment de son inquiétude personnelle de savoir si son père et son frère, c'est-à-dire si Jacob et Benjamin étaient encore vivants, il y a dans cette interrogation, plus qu'une simple interrogation, il y a déjà là un interrogatoire. Il s'agit de savoir si l'identité d'Israël est encore vivante chez les frères de Joseph qui étaient restés dans le pays de Canaan. Et voilà donc la question qui est posée brutalement, « Hayesh lachem av o ach ?»« Avez-vous un père ou un frère ?» C'est-à-dire, êtes-vous capable de l'héritage et de la fidélité, mais ensemble. Et la réponse concerne le chidouche. Il répond, Yeshlanu av zaken ve yelet zekunim katan. Ce qui signifie en français, nous avons un père vieux, très ancien, c'est-à-dire que l'héritage vient de très loin, ve yelet zekunim katan est un enfant de cette vieillesse, tout petit, mais en hébreu ça signifie capable de chokhmah. C'est-à-dire que la réponse des frères de Joseph à Joseph était, nous avons toutes les garanties qui désigne qu'il s'agit bien d'Israël, d'une part l'héritage le plus ancien qui vient du Père, et d'autre part aussi le fait que l'enfant, le dernier des enfants, le plus petit des enfants, est capable de sagesse. Ceci se trouve dans l'expression elle-même « Ve'yeled zekunim katan ». Et la suite du verset est très grave « Ve'achiv met » mais son frère est mort. Et le frère, il s'agissait de Joseph. C'est-à-dire, lorsque les enfants de Joseph parlent à Joseph, ils parlent de Joseph, en disant que le frère de Benjamin est mort. On a posé à ce sujet une question importante, c'est que la Torah n'a dit jamais de mensonge. Comment les enfants de Jacob peuvent dire que Joseph est mort alors qu'il est vivant? Et alors que, surtout dans ce dialogue, eh bien, tout se passe comme si à un certain niveau, Joseph avait déjà reconnu ses frères, mais ses frères ne l'avaient pas reconnu, mais tout se passe comme si à un deuxième niveau, C'était les frères de Joseph qui savaient qui était Joseph, et c'était Joseph qui voulait savoir si les personnes qui étaient présentes étaient vraiment Israël. Et comment donc les frères de Joseph pouvaient dire « Ve'achiv met » et son frère est mort? Donc on peut le comprendre de la manière suivante. Ils n'ont pas dit que Joseph était mort, mais ils ont dit que cette manière d'être de Joseph, qui consistait à être capable d'être frère d'eux, à être capable d'être frère, cette manière-là était morte, que Joseph n'était pas frère de son frère. Il y avait donc qu'en Israël, si vous voulez, toutes les exigences pour que l'authenticité d'Israël soit là, et la relation à l'héritage, Avzaken, et la relation du chidouche par la fidélité à l'héritage, Yedetzekounim, Benjamin, la dernière chance, mais que l'aide et la condition qui devait être apportée à ce peuple d'Israël de la part de Joseph, qui était resté à l'extérieur et qui tenait les clés de la force à l'extérieur, dans l'Égypte de ce temps, tout se passe comme si l'Égypte de ce temps, c'est la diaspora tout entière, eh bien, tout se passe comme si on était inquiet de savoir s'il y avait vraiment attribut de fraternité vers Achiv Met. Quoi qu'il en soit, cette citation est importante pour nous faire comprendre effectivement que lorsqu'un temps de mutation apparaît, ces deux dimensions sont nécessaires. Il faut se rappeler de cet interrogatoire que Joseph fait passer à ses frères. Avez-vous le père et le frère? Et la réponse, nous avons non seulement le père, mais aussi le petit frère, celui qui est capable de porter l'avenir, le frère le plus jeune. Je crois qu'il est inutile de tirer la leçon contemporaine d'un tel thème. C'est ce que nous sommes en train de vivre très intensément en Israël. Nous avons le père très ancien, nous avons le fils le plus petit, mais celui qui est capable d'être le frère est resté à l'extérieur, et on ne sait pas s'il est vivant en tant que frère. Une deuxième approche de ce problème nous est donnée par une parallèle que j'aimerais faire entre ça vous paraîtra paradoxal peut-être, entre le début du livre de Job et le début de la Gemara et le début du Talmud. Le livre de Job en lui-même apparaît comme assez mystérieux à simple lecture, puisque, pour aller directement au fond des choses, on ne comprend pas très bien pourquoi Job souffre. Et on comprend la leçon qui est tirée de cette souffrance, mais on ne comprend pas très bien pourquoi Job est éprouvé et pourquoi il souffre. Et d'ailleurs, lui-même ne le comprend pas, et c'est ce qu'il fait, si vous voulez, l'aspect le plus tragique, en tout cas dramatique, de sa souffrance. D'autant plus que la Bible a pris la précaution de nous dire que Job est un juste parfait. Si vous lisez les textes d'introduction, même au livre de Job, les premiers versets, vous verrez à quel point le texte tient à insister sur le fait que nous sachions que Job n'a jamais fauté. Et pourtant, il souffre. Et pourtant, il est éprouvé. Eh bien, on ne peut pas tricher avec le texte. Il est évident qu'il s'agit d'un juste. Mais il n'est pas possible que sa souffrance ne soit pas justifiée non plus. Et c'est pourquoi l'explication traditionnelle de ce fait, il faudrait parler pendant plusieurs séminaires simplement du livre de Job pour épuiser tous ces problèmes, et la Gemara et la Kabbalah on a beaucoup étudié, mais je voudrais simplement citer une explication de ce fait, qu'il est nécessaire de faire une distinction entre ce que j'appellerais les fautes des actes, les fautes au niveau de l'acte, et la faute d'être, la faute au niveau de l'être, le mal-être opposé au mal-faire. La faute au niveau de l'acte, Job ne l'avait jamais commis, dit la Bible. Job n'avait jamais fait de mal. Mais il est éprouvé au niveau de l'être. Et voici de quoi il s'agit très exactement. Il y a une préface au livre de Job. On apprend que Job avait été doué d'enfants, les plus beaux de la terre. C'est plus qu'une légende, enfin. Légende, non, c'est pas le mot. Enfin, c'est un thème dans la littérature talmudique de la beauté des filles de Job. Et, je veux dire, elle est légendaire. Ce n'est pas une légende parce qu'elles ont existé, elles étaient très belles. Mais, et puis on apprend que ses enfants et les fils et les filles de Job étaient heureux et passaient leur temps, chaque jour de la semaine, à se rendre visite l'un chez l'autre et à festoyer. Or, à chaque matin de festin, à chaque matin de fête, Job nous dit l'introduction, le premier chapitre, offrait un sacrifice d'expiation préventif au cas où un de ses enfants, dans l'énivrement du bonheur, aurait blasphémé. C'est très essentiellement le contenu de ce que nous dit le texte. Il n'y a donc pas là une faute d'acte. Job, l'homme Job, n'avait jamais fait aucune faute, et il faut croire le texte qui nous en parle, puisque c'est de Job de la Bible que nous parlons, et pas de quelqu'un d'autre. Mais voilà, il y avait un doute d'identité porté sur la filiation de ses propres enfants. Vous comprenez en quoi ce thème se rattache à notre problème. Il n'y avait absolument aucune faute au niveau des actes, mais il y avait un doute sur cette relation entre l'héritage et la fidélité. Job n'était pas sûr de ses enfants. Cela signifie que Job était injuste jusqu'à lui, mais n'avait pas été capable de faire passer à la génération suivante la fidélité nécessaire pour authentifier l'héritage. Tout était arrivé à la réussite la plus parfaite, les enfants les plus pieux, les plus beaux, nous dit le texte, les plus riches d'ailleurs aussi, enfin toutes les qualités possibles, mais doute quant à l'authenticité dans cette relation héritage et fidélité. Or, il est extrêmement frappant de voir que nous avons laissé en suspens cette citation de Job. Il est extrêmement frappant de voir que la Gemara tout entière commence par un enseignement analogue. La première des questions que la Gemara étudie, la première Mishnah de Brachot, c'est de savoir quel est le temps qui nous est donné pendant le temps de la nuit pour dire la lecture du Shema du soir. Vous savez que c'est un des principes liturgiques fondamentaux du judaïsme de proclamer l'unité de Dieu à chaque expérience de temps de passage. En particulier, au niveau de la liturgie de la journée, au moment où nous quittons le jour pour entrer dans la nuit, donc le soir, c'est le temps de proclamer l'unité de Dieu. Au moment où l'on quitte la nuit pour entrer dans le jour, donc le matin aussi, parce que c'est dans ces temps de passage, c'est dans ces temps d'expérience qui nous font passer d'un monde à l'autre, en ce cas du jour à la nuit ou de la nuit au jour, mais aussi à la limite de ce monde-ci au monde à venir, c'est pourquoi on dit aussi la liturgie du chemin au moment de la mort. Chaque fois que l'homme passe d'un cycle à un autre cycle, c'est dans le temps de passage qu'apparaît le doute quant à l'unité de Dieu. Parce que s'il y a deux mondes aussi différents, peut-être il y aurait-il deux divinités. Donc c'est au moment de Mahavar, au moment du passage, très exactement, que doit être affirmée la fidélité à l'héritage antérieur, au moment même où on passe dans le cycle suivant. Et là, il y a une discussion entre les rabbins de la Mishnah, et Rabban Gamliel en particulier, et de l'avis que c'est tout le temps de la nuit qui est le temps de la mitzvah, qui consiste à avoir proclamé l'unité de Dieu en sortant du jour précédent. Alors que finalement l'ensemble des maîtres ne retient que jusqu'au temps de minuit. Or, nous dit la Mishnah, est arrivé le cas des enfants de Rabban Gamliel, qui étaient allés à un festin, et ils avaient laissé passer le temps de minuit. Alors ils sont allés demander à leur père s'ils avaient encore le temps de dire le Kriyat Shema du soir. Pourquoi sont-ils allés demander à leur père alors qu'ils savaient que leur père était de l'opinion que le temps durait toute la nuit? C'est parce que précisément ils n'avaient pas le droit de faire comme l'opinion de leur père, puisque la majorité avait tranché autrement. Si Dafka, enfin je veux dire, en particulier, les enfants de Rabban Gamliel, seuls de tout Israël, n'avaient pas le droit de faire comme l'opinion de leur père. Vous comprenez pourquoi? Puisque finalement, la règle de la majorité ayant tranché, ils ne pouvaient pas faire comme l'autre opinion. Donc ils sont allés lui demander s'ils avaient quand même autorisation de dire la proclamation de l'unité de Dieu, bien que ce soit son opinion à lui, puisque la règle, selon la majorité, était déjà passée. Et Rabban Gamliel leur a expliqué que le temps de la mitzvah était comme lui disait, et que la majorité avait décidé siag la Torah, c'est-à-dire une précaution supplémentaire. Il voulait dire qu'il pensait comme les autres, parce que les autres pensaient aussi comme lui, mais que les autres avaient donné une précaution supplémentaire. Ce qui est frappant, c'est que c'est le même récit. Mais alors que dans l'histoire de Job, si vous voulez, l'atmosphère est celle de l'échec, dans l'histoire de Rabban Gamliel, c'est celle de la réussite. Les enfants de Job allaient au festin, mais leur père avait peur que non seulement ils aient oublié de dire le Shema, mais que dans l'énivrement existentiel de l'euphorie d'exister, ils blasphèment. Alors que les enfants de Rabban Gamliel, eux, lorsqu'ils sortaient du festin, allaient demander scrupule à leur père s'ils avaient le droit encore de dire le Shema. Quelle est la différence finalement? On apprend des commentaires de ces deux thèmes. C'est que les enfants de Job étaient arrivés, donc, à ce que j'appellerais dans les termes de l'exposé de ce soir, à la réussite de l'héritage. Et puis il n'y avait plus rien après. Il n'y avait plus rien après qui soit la fidélité au projet. Il n'y avait plus rien qui continuait. ils allaient à des fêtes de fin de temps. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. L'existence humaine ayant réussi en eux, eh bien, ils occupaient leur temps, et le texte est très clair à ce sujet, chacun un jour de la semaine chez l'autre, à festoyer. Il n'y avait plus de chidouche. C'est le mot que je cherchais, que j'attendais. Il n'y avait pas de chidouche. Alors que les enfants de Rabban Gamliel, eux, étaient allés à un festin de mariage. Un festin de mariage, ça veut dire qu'il va y avoir des enfants. Ça veut dire qu'il va y avoir un chidouche. Voilà donc la différence. C'est qu'effectivement, il y a échec lorsqu'il y a fidélité à l'héritage, sans qu'il y ait fidélité au projet, et il y a échec aussi lorsque, finalement, la fidélité tourne à vide et ne concerne pas l'identité qu'il s'agit de reconduire. Voilà donc la deuxième citation que je voulais rappeler. La troisième nous pose un problème que nous sommes en train de vivre. C'est que finalement, toute cette péripétie d'issue, qui est le chidouche, le renouvellement, porte en lui-même le problème.